6h à Paris, 5h en temps universel. L'heure du journal tout de suite. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Andréane Mellard, bonjour à tous.
À la une, le coup près est tombé 10 jours après la finale chaotique de la CAN. Le Sénégal et le Maroc sont lourdement sanctionnés.
Oui, la CAF a décidé de suspendre le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw pour 5 matchs. Cela ne concernera pas toutefois la prochaine Coupe du Monde cet été. Des joueurs sénégalais et marocains écopent aussi de matchs de suspension. Des amendes devront être réglées. Cédric De Oliveira fait un point complet dans une minute. Les gardiens de la révolution iranien menacé d'être placé sur la liste européenne des organisations terroristes. L'Union européenne doit plancher sur la question aujourd'hui lors d'une réunion. Les États-Unis, eux, répètent leur menace d'intervention militaire contre Téhéran. Après la mort de 2 personnes à Minneapolis récemment aux États-Unis, plusieurs États américains prennent des mesures contre la police anti-immigration ICE. Et puis sportifs et artistes se réunissent pour une soirée de soutien à Christophe Glaize à Paris. Ça fait 7 mois jour pour jour que le journaliste français est détenu en Algérie.
L'euphorie sénégalaise et la peine marocaine sont retombées, mais les 2 finalistes de la CAN doivent maintenant faire excuser leur comportement.
Oui, pendant une fin de match plus couleuse, on s'en souvient, après les auditions devant la commission de discipline de la Confédération africaine de football mardi, l'instance a fini par publier ses décisions cette nuit. Et malgré leur victoire dans la compétition, les Lions de la Teranga ont désormais de lourdes dettes à payer, Cédric De Oliveira.
On s'attendait à ce qu'il soit lourdement sanctionné pour avoir demandé à ses joueurs de quitter le terrain après le fameux pénalty controversé sifflé en faveur du Maroc. Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a écopé d'une suspension de 5 matchs officiels. Il lui est reproché un comportement antisportif qui porte atteinte à l'image du football. Une sanction qui s'appliquera lors des prochains matchs des éliminatoires de la CAN 2027, mais qui ne concerne pas la Coupe du Monde prévue cet été. Thiaw écope aussi d'une amende de 100 000 dollars américains. Ismail Assar et Illiman Diaye, 2 joueurs particuliers clairement virulent avec l'arbitre de la finale, ont été sanctionnés de 2 matchs de suspension. Quant à la Fédération sénégalaise de football, elle devra régler une amende totale de 615 000 dollars, notamment à cause du comportement de certains de ses supporters qui avaient tenté d'envahir le terrain et attaquer des stadiers. Côté marocain, le défenseur et capitaine Achraf Hakimi sera lui suspendu pour 2 matchs, dont 1 avec sursis pour avoir tenté d'éloigner la serviette du gardien sénégalais Edouard Mendy au cours de la rencontre. Un comportement jugé antisportif par la CAF. Même chose pour Ismaël Saïbari qui sera lui suspendu de 3 matchs. Quant à la Fédération Royale Marocaine de Football, elle devra s'acquitter d'une amende de 315 000 dollars pour le comportement des ramasseurs de balles, l'envahissement de la zone du VAR et l'usage de laser par ses supporters.
Cédric De Oliveira, au large de Dakar, c'est un sabotage de haute précision qui a touché un pétrolier en provenance de Russie fin novembre. Le Mersin avait alors déclaré une voie d'eau en salle des machines. Une vidéo qu'RFI s'est procurée et a pu authentifier prouve que le Mersin, nom donc de ce bateau soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe, a été ciblé par des charges explosives posées à des endroits stratégiques. Alors que les autorités sénégalaises craignaient une marée noire, le port autonome de Dakar avait annoncé une inspection. Aucune conclusion officielle n'avait été rendue publique depuis. Mais ce matin, Pauline Le Troquet, vous êtes en mesure de nous confirmer que c'est une opération humaine qui est à l'origine de ces dégâts.
Sur cette vidéo, consultée par RFI, filmée au lendemain de l'incident, la coque du Mersin est perforée au niveau de 4 points d'impact. Les brèches d'environ 1 mètre pour la plus importante laissent apparaître la tuyauterie du navire en partie dégradée. Ces images permettent de conclure à un sabotage à partir d'engins explosifs. Selon plusieurs experts militaires, qu'il s'agisse de la netteté des brèches, de leur localisation en dessous de la ligne de flottaison ou encore de la propagation de micro-fissures autour des impacts principaux, tout oriente vers la pose de mines magnétiques par des plongeurs. 5 kg d'explosifs minimum pour chaque brèche, poursuit un ingénieur spécialiste du secteur pétrolier offshore. Fait notable, les impacts sont tous concentrés au niveau de la salle des machines. Un ciblage réfléchi qui montre une volonté de neutraliser le navire plutôt que de le couler lui et ses 39 000 tonnes de carburant à bord. Pour un spécialiste naval, seule une puissance disposant de moyens et de capacités de plongée avancée peut mener une opération si minutieuse. C'est la première fois qu'un navire soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe est visé dans les eaux africaines. Rien ne permet d'identifier ses auteurs. Seule certitude, ces derniers ont cherché à envoyer un message de mise en garde claire à Moscou. Pauline Troquier, Dakar, RFI.
Au Niger, des tirs nourris et de très importantes détonations ont été entendus à l'aéroport de Niamey en milieu de soirée hier. Pendant environ 1 heure, Des hommes armés non identifiés ont mené une attaque. C'est la base 101 de l'armée de l'air nigérienne qui a été visée. Les passagers en partant sont fuis l'aéroport à pied. Les vols vers Niamey ont été détournés vers d'autres aéroports. Le calme est revenu depuis, mais toutes les casernes de la capitale restent en alerte. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible.
L'un des piliers du régime iranien en passe de basculer sur la liste européenne des organisations terroristes.
L'Italie va proposer aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne d'inscrire le corps des gardiens de la révolution sur ce registre. L'organisation est accusée d'avoir réprimé dans le sang les manifestations récentes en Iran. La France a déjà annoncé soutenir la mesure alors que Téhéran met en garde contre des conséquences destructrices. Autre menace, celle du chef de la diplomatie iranienne qui vise cette fois les États-Unis. Les forces iraniennes ont le doigt sur la gâchette, déclare Abbas Araghchi, alors que Donald Trump agite le spectre d'un raid si Téhéran ne renonce pas à l'arme nucléaire. Franck Alexandre, comment l'armée iranienne pourrait répliquer en cas d'assaut américain ?
Depuis les raids israéliens en 2024, puis lors de l'opération américaine Midnight Hammer de juin dernier, l'Iran a perdu quasiment toutes ses batteries de S-300, son meilleur système anti-aérien. Puisque Téhéran n'est plus en mesure de protéger efficacement son espace aérien, ses stratèges ont forgé un concept offensif dit de contournement avec l'usage massif de drones et de missiles balistiques courte portée susceptibles de menacer les installations critiques des pays voisins. Dans cette logique du faible au fort, la marine iranienne pourrait, elle aussi, à partir de sa base navale de Bandar Abbas, idéalement située dans le très stratégique détroit d'Ormuz, tenter d'y paralyser le trafic à l'aide de mines. Elle pourrait aussi mettre en œuvre sa flotte de sous-marins de poche, ainsi que ses 3 sous-marins océaniques de classe Kilo. S'ils sont opérationnels, ces 3 sous-marins livrés par la Russie peuvent représenter une potentielle menace pour l'armada américaine.
Franck Alexandre, après la mort de René Goude et d'Alex Pretty à Minneapolis ces dernières semaines, la Maison Blanche doit gérer une séquence délicate. Sa politique migratoire est de plus en plus critiquée. La grogne monte dans plusieurs États qui préparent des mesures anti-ICE, la police de l'immigration. Depuis quelques semaines, c'est une avalanche de textes qui sont présentés devant les parlements locaux afin de limiter le périmètre des agents fédéraux. Bonjour Vincent Sourion, on vous retrouve en direct de Washington où vous êtes notre correspondant.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Et ces États, ils ont un point commun, Vincent, ce sont des États démocrates.
Eh oui, le Colorado par exemple, qui a voté Kamala Harris à la présidentielle, veut autoriser ses habitants à poursuivre les agents fédéraux qui violeraient leurs droits civiques. Le Delaware, l'État de Joe Biden, s'attaque lui aux compagnies aériennes. Ces compagnies bénéficient d'exemptions fiscales sur le carburant. Eh bien, au terme d'un texte en préparation dans le Delaware, si un avionneur transporte des suspects arrêtés par l'agence ICE sans réquisition judiciaire, cet avionneur perdra ses avantages fiscaux sur le kérosène. Enfin, la Californie, là aussi deux propositions de loi qui ont émergé dans la foulée de la mort d'Alex Pretty il y a seulement quelques jours. La première, en cas de décès causé par la police fédérale de l'immigration, enquête obligatoire des autorités locales. La deuxième de ces propositions de loi, Paul, elle vise à empêcher ICE d'utiliser des infrastructures publiques californiennes. Interrogée au sujet de ces initiatives locales, la Maison Blanche estime, je cite, que les démocrates affaiblissent l'état de droit afin de protéger des criminels étrangers. Fin de citation.
Merci Vincent Sorio à Washington pour RFI.
Et entre l'opposition vénézuélienne présente à Washington et Caracas, la passe d'armes à distance continue.
Cette nuit, Delcy Rodriguez, la présidente vénézuélienne par intérim, a invité, sans la nommer toutefois, Maria Corina Machado à restée dans la capitale des États-Unis. La lauréate du prix Nobel de la paix 2025 avait, elle, estimé hier que personne n'avait confiance dans Delcy Rodriguez. Déclaration à l'issue d'une rencontre avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui lui déclare espérer prochainement qu'une représentation diplomatique de Washington pourra être ouverte à Caracas, et ce un mois après l'enlèvement de Nicolas Maduro.
Nous avons une équipe sur place qui évalue la situation et nous pensons pouvoir ouvrir une représentation diplomatique américaine dans un avenir proche, ce qui nous permettra d'obtenir des informations en temps réel et d'interagir, pas seulement avec les responsables du régime, avec les autorités provisoires, mais aussi avec les membres de la société civile, l'opposition. Nous pensons que nous aurons beaucoup plus avancé lorsque nous les aurons convaincus. Ils se sont montrés très coopératifs sur ce front.
Marco Rubio. En France, c'était au tour du trésorier historique du Front National d'être interrogé par la justice hier au procès en appel des assistants parlementaires du FN. En première instance, Valéran de Saint-Just avait été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. L'ex-avocat et trésorier donc est apparu hier en difficulté. Laura Martella.
Il y a d'abord cette alerte lancée à Marine Le Pen. Nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen, écrit Valéran de Saint-Just en mai 2014. J'anticipe que certains cadres du parti vont être élus eurodéputés, des salariés devenir assistants parlementaires, explique-t-il à la barre. Mais s'ils ne sont pas remplacés, comment fonctionne le parti, interroge la présidente. On passe à ce tableau où des membres du FN, salariés européens, sont rattachés aux catégories siège ou équipe marine. Ce document s'appelle « Payer autrement ». C'est étonnant comme intitulé, note la magistrate. Et quid de ce mail qui parle de vases communicants ou de cette prime qu'il réclame, lui, trésorier du parti, pour Yann Le Pen, alors salarié du Parlement européen. Et puis il y a ce qu'écrit un eurodéputé en juin 2014, ce que Marine nous demande équivaut à ce qu'on signe pour des emplois fictifs. Réponse d'alors du trésorier, je crois bien que Marine sait tout ça. Ma réponse est parfaitement limpide, avance-t-il aujourd'hui. Je dis que je crois que Marine connaît les textes, je n'imagine pas un instant qu'elle puisse commettre une infraction, mais j'aurais dû répondre plus explicitement, regrette-t-il. Enfin, il y a ce projet que vous deveniez vous-même assistant d'eurodéputé alors que vous venez enfin d'être salarié par le parti, relève la présidente. Quelle est la finalité? Et l'ex-trésorier de répondre, eh bien que je sois assistant parlementaire, qui pourrait douter du contraire?
Laura Martel.
La justice algérienne, elle, retient depuis 7 mois jour pour jour le journaliste français Christophe Glaise.
Le reporter qui avait été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme en juin dernier pour un reportage effectué en 2024. La condamnation a été confirmée en appel en décembre. Une soirée de soutien est organisée ce soir à Paris. Le chanteur Alex Baupin y sera.
Je trouve que ces temps-ci, il est plus important peut-être encore qu'il y a quelque temps de soutenir les journalistes dans une période où la vérité est une notion assez mouvante, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on l'accuse d'apologie du terrorisme alors que c'était pas du tout les choses sur lesquelles il était venu enquêter. L'idée, c'est de réunir des gens, d'en faire parler, parce que tout ça, c'est des questions de diplomatie après, de faire bouger les gouvernements, et particulièrement le gouvernement français, même si j'ai l'impression qu'ils sont en train de travailler sur l'affaire. L'idée, c'est toujours qu'on n'oublie pas que ces gens sont otages ou en prison. Parce que la vie et l'actualité sont tellement intrépidantes que c'est des choses qu'on peut oublier facilement. Si ça donne une petite thèse de résonance, ce genre d'événement, c'est toujours ça de gagner.
Alex Baupin, joint par Léa Boutin-Rivière.
Et Paul Lonsin-Spinelli pour le journal. Merci Paul. 6h13 à Paris, RFI Matin commence. 3 heures d'infos, de chroniques, de reportages, d'invités et un tour du monde de l'actualité qui nous emmène ce matin à nouveau à Minneapolis aux États-Unis où 2 personnes ont été tuées ces derniers jours par des agents fédéraux dans le cadre d'opérations anti-immigration. La pression sur place est toujours extrême. Notre envoyé spécial a rencontré des militants qui observent à Minneapolis les allées et venues de l'ICE.
Ma femme a regardé par la fenêtre et a vu l'ICE garé devant notre maison, près d'un arrêt de bus où les enfants sont récupérés et déposés pour l'école.
Reportage d'Edouard Maille à écouter à 8h. Autre témoignage à écouter ce matin sur RFI à 7h20 avec vous, Arnaud Pontus. Bonjour.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Votre invité est un résident français de Minneapolis, Jérôme Château, responsable du quartier South Uptown.
Oui, il est français mais il vit à Minneapolis depuis plus de 40 ans. Il y a fait ses études, créé une entreprise, était le patron de la chambre franco-américaine de commerce, très impliqué dans la vie locale, engagé politiquement dans le camp démocrate. Jérôme Château nous raconte la colère et la douleur des habitants de Minneapolis, cette ville du nord des États-Unis, encore sous le choc de ces 2 décès. Les agents de l'immigration sont toujours massivement déployés pour arrêter des sans-papiers, même si le président américain a promis une petite désescalade. Jérôme Château veut croire que l'apaisement est possible et que sa ville sortira de ces événements encore plus solidaire. On l'écoute à 6h20, temps universel.
Aïs et et son financement au cœur de notre rendez-vous aujourd'hui. L'économie aussi ce matin après le journal des sports de 7h13. Les États-Unis et les tensions toujours très fortes avec l'Iran. La possibilité d'une intervention américaine plane toujours. C'est à la une d'RFI.fr. Les Européens, eux, réfléchissent aujourd'hui à l'attitude à adopter vis-à-vis du régime iranien. On en parle aussi ce matin. On revient également très largement sur les sanctions décidées par la CAF contre les équipes finalistes de la CAN, le Sénégal et le Maroc. On revient également sur les événements.
Pour un je ne sais quoi, je ne ferai pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Bon, tout le monde médit de moi, sauf les muets, cela va de soi. Que l'on suive une autre route que non.
sauf les aveugles. Bien entendu.
Comme un dieu moi de la rue Mira. Où sont-ils tous? Ils sont tous dans le jeunisme. Moi je serai toujours à la mode quand leurs pochettes auront jauni. Papa, passe-moi une petite idée, je t'en fais du grand son. Sache que même les plus petits hommes projettent de grandes ombres. Made in, c'est presque l'anagramme d'Eminem. Avec Proof 112, j'envoie des prod heavyweight. Yeah. J'apprends à écrire à ton rappeur préféré. Car même les grands navigateurs ne savent pas toujours nager. Yes. 2013, que les Zoulous soient à Zaboul. Pour le retour de la panthère, attitude de Hazal Ghul. Baisse les yeux, qu'on me présente le speaker. J'arrive en rappel, dans l'octogone, sur la tête à Bruce Buffer. Où sont leurs arguments? Que des phrases insensées. Avec l'auriculaire, je pourrais sonder le fond de leurs pensées. On a la même discipline, pas le même game. Sur l'échiquier, certains jouent aux dames quand d'autres échecs. Bienvenue au bal des débatteurs, je lâche une balle aux déblateurs. Made in frappe le clavier avec des bagues et de batteurs. Je donne ce que le Mac à Damador, réveille les Macs après de la mort. Comment bien faire le tri dans ce pack d'amateurs? J'ai le dirty langage. Si ma bouche parle mal, c'est que mon cœur s'y engage. Rache d'aucune, grand tribun de la tribu urbaine. Orateur à la tribune du game. Donne ma bouche à ton calibre. Si tu veux faire parler la poudre, si tu veux faire chanter la foudre, je donne un cours de vocalise. Parce que faire baler la joute, je viens faire plier leurs genoux. Si tu joues à saute-mouton, cherche pas le faire plécher les loups. Oui. À coup de langue, je les enterre comme à coup de pelle. Sans que tu l'entendes, ma voix bourdonne dans ta tête comme un acouphène, comme un acte obscène. Je les obsède et me libère comme un lâche des chaînes. Accouché dans la douleur, je suis coulé dans le même moule que Cool Chain. Yeah. De moi, tu te rappelais plus. Tu croyais que je rappais plus. J'ai repeuplé la rue. Je suis le poids lourd qui bouge comme un poids plume. Rap de trentenaire, de nerf, de qui aime ça. J'ai fusionné la cassosserie de base et l'intelligentsia. Yeah. 2013, j'ai pour dresser tous ces clous. Que mes coups de le wouzou, car je vous graisse à l'huile de coude. Ta route, j'arrive en deux de déroute. J'ai la plastique de Mickey Rourke avec le groove de deux routes. Leur carrière est entourée par la laideur. J'annonce le prix de la qualité par la solitude du leader. En Ligue des ombres, point fermé sur les écussons. Moi je clash pas, je menace car ça vaut mieux que l'exécution. Bienvenue au bal des débatteurs. Je lâche une balle aux déblateurs. Made in frappe le clavier avec des bagues et de batteurs. Je donne ce que le Mac à Damador. Réveille les Macs après de la mort. Comment bien faire le tri dans ce pack d'amateurs? J'ai le dirty langage. Si ma bouche parle mal, c'est que mon cœur s'y engage. Rache d'aucune, grand tribun de la tribu urbaine. Orateur à la tribune du game. Rache d'aucune, rache d'aucune. Comment séparer le bon grain de l'ivraie? Dans une époque où la non-qualité est désormais subventionnée, j'annonce l'expiation de leur misérabilisme par le feu purificateur qui émane de ma bouche. Nous sommes la parole dure, les douaniers de la poésie, garants de la noble écriture, venus sonner la fin de la récréation. Que les cancres retournent à leurs pupitres et leurs livres, qu'ils méditent leurs péchés et demandent pardon pour une décennie de mièvrerie. J'en fais le serment, leur sang séchera plus vite que mon encre.